Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier avec à la technique Pierre-Henri. Aujourd'hui, nous recevons Delphine Horviller pour parler du féminin et de la pudeur dans le judaïsme. Delphine Horviller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rabbin, vous êtes d'ailleurs l'une des deux seules femmes rabbins en France, si je ne me trompe pas. Vous officiez au mouvement juif libéral de France, dans le 15e arrondissement de Paris. Vous siégez également en tant que représentante des voix juives au Conseil national du SIDA. Et vous venez de publier, en tenue d'Ève, Féminin, pudeur et judaïsme, aux éditions Grasset. Alors c'est un très beau livre. Vous partez du constat qu'aujourd'hui, on est dans un monde un peu paradoxal où il y a à la fois cette impudeur générale qui domine très largement, ce désir de transparence, de tout dire, de tout montrer. Et puis, on le voit bien au niveau des mœurs. Et en même temps, il y a une réaction identitaire et une réaction religieuse qui touche beaucoup de religions. Ou peut-être, d'ailleurs, à cause de cette impudeur générale, on va vers une pudeur où on cache de plus en plus la femme, on la voile de plus en plus dans tous les mouvements un peu fondamentalisme religieux. Et vous abordez la question tout à fait autrement, en renvoyant dos à dos ces deux extrêmes. Alors, parlez-nous-en.
Oui, je crois qu'on vit dans une société où la transparence est le mot d'ordre généralisé. On le voit à travers des émissions de télé où il faudrait tout montrer, tout dire. On le voit à travers certains discours politiques. Et face à ça, les discours religieux, enfin ceux qu'on a l'habitude d'entendre, les normatifs ou traditionnels, se sont d'une certaine manière accaparés le concept de la pudeur jusqu'à en fait entretenir un discours que moi je qualifie ou qui me semble être impudique. Pour parler de la pudeur, on utilise des termes bien impudiques et on parle des autres et bien souvent de la femme en des termes très impudiques. Et il m'a semblé important, voire même urgent, de se réapproprier ce concept de pudeur, de le revisiter et de le revisiter de l'intérieur de la tradition, de l'intérieur des voies religieuses, pour ne pas le laisser être kidnappé ou accaparé par certains, mais le revendiquer avec pudeur, justement, et peut-être, j'espère, un peu plus finement que la façon dont il est traditionnellement employé.
Alors c'est quoi ce concept de pudeur pour vous ?
Le concept de pudeur, à mon sens, c'est ce qu'on retrouve dans les textes traditionnels et dans leur interprétation, l'idée que l'autre ne peut pas être appréhendé dans sa pleine nudité, dans sa toute nudité, mais que l'approche de l'autre nécessite un certain retrait et la reconnaissance qu'il est toujours partiellement voilé. Et de la même manière qu'on ne peut pas voir une vérité toute nue, à moins de l'appauvrir, eh bien il faut approcher l'autre comme s'il nous échappait un petit peu. Et à mon sens, la pudeur, c'est ce voile symbolique qui permet de ne pas s'approprier l'autre dans une vision absolue, dans une plénitude de la vision, mais de reconnaître que l'autre nous échappe toujours un peu et que c'est parce qu'il nous échappe qu'on peut se mettre à sa rencontre, en chemin vers lui, tout en sachant qu'on ne l'atteindra jamais complètement. Et à mon sens, nos textes et nos traditions, c'est pas du tout propre au judaïsme, mais les traditions ancestrales, les traditions religieuses, eh bien, enseignent de façon métaphorique et très poétique cette notion d'une approche graduelle de l'autre qu'on appelle pudeur. D'ailleurs, pudeur en hébreu, ça se dit tzniut, qui littéralement veut dire caché ou partiellement caché. L'idée que la vision est partiellement entravée, et c'est parce qu'elle est partiellement entravée que l'autre s'approche.
Mais on a eu l'impression quand même que dans les textes religieux, notamment de la Bible, la pudeur est plutôt appliquée aux femmes qu'aux hommes. Alors, d'après ce que vous dites, c'est hommes-femmes doivent être exactement dans la même attitude.
En fait, dans la Bible, c'est pas si clair. C'est-à-dire que dans la Bible, la nudité est définie comme... on doit cacher la nudité d'un homme comme d'une femme. Alors après, moi, dans le livre, je développe longuement quel est le sens de ce mot hébraïque nudité, qui se dit en hébreu erva, et comment est-ce qu'on pourrait un peu plus finement le traduire. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, la nudité concerne hommes et femmes, mais tout doucement, dans le Talmud, et particulièrement dans l'interprétation des premiers siècles, il y a un glissement qui s'opère. Et au départ, elle ne qualifie que la nudité, elle qualifie la nudité de tous, pardon. Et puis, tout doucement, elle vient à ne concerner que la nudité des femmes. J'ai découvert en travaillant ce livre, en l'écrivant, que ce glissement s'opère de la même manière dans l'islam, avec un mot en arabe, farj, qui au départ va représenter la nudité des hommes et des femmes. Et tout doucement ne vient à qualifier que celle de la femme. Comme si tout doucement, dans l'histoire et dans l'interprétation, la femme devenait un peu plus nue que l'homme, même quand elle est habillée.
Lélian Var, bonjour.
Oui, bonjour. Et d'ailleurs, pour finalement commencer cette réflexion sur la pudeur, vous commencez par le commencement, c'est-à-dire la Genèse elle-même, et ce qu'elle a à nous dire de la nudité, puisque les premiers à avoir été nus, c'est évidemment Adam et Ève au Jardin d'Éden, sauf que, avant d'avoir mangé les fruits de l'arbre, ils ne le savaient pas qu'ils étaient nus. Et en fait, vous livrez une comparaison extrêmement intéressante qui, évidemment, vient illustrer ce que vous venez de dire entre la première version de la Genèse, le premier récit de la Genèse et le deuxième récit. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est de lire justement deux petits extraits de la première version et de la deuxième version et qu'ensuite vous nous montriez pourquoi ce glissement s'est fait et comment il s'est fait et qu'est-ce qu'il nous dit de notre rapport à la nudité. Dieu dit « Faisons l'Adam à notre image et qu'il soumette toute bête qui se meut sur la terre. » Dieu créa l'Adam à son image, masculin et féminin, il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. » Genèse 2. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide vis-à-vis de lui. » Le Seigneur Dieu forma du sol toute bête du champ qu'il présenta à l'Adam pour voir ce qu'il leur donnerait comme nom. Le nom que l'Adam donna à chaque espèce était son nom. L'Adam donna des noms, mais pour lui-même, l'Adam ne trouva pas son aide vis-à-vis de lui. Le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'Adam qui s'endormit. Il prit un de ses côtés et ferma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu bâtit le côté qu'il avait pris de l'Adam en femme, Isha, et la présenta à l'Adam. L'Adam dit, « Celle-ci, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, celle-ci, on l'appellera femme, Isha, car elle fut prise de Ish, celle-ci. C'est pourquoi Ish, individu, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa Isha, et ils formeront une seule chair. Les deux étaient nus et n'avaient pas honte. »
Je vous remercie d'avoir conservé d'abord l'hébreu dans le texte à certains passages, parce qu'effectivement, la traduction potentiellement appauvrit ou en tout cas limite la possibilité de dire du texte.
C'est une traduction en fait d'Armand Abécassis.
Et elle est très critique dans ces passages, particulièrement parce qu'on connaît, on sait l'impact, j'ai envie de dire, civilisationnel qu'a eu une traduction plutôt qu'une autre. Ce qui est frappant ici, c'est quand on lit le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse, des passages que l'on a l'impression de connaître parce qu'ils font partie de la culture populaire, mais en leur lisant avec attention, on se rend compte qu'il y a un paradoxe auquel on a tendance à ne pas faire attention, entre même une impossibilité à connecter ces deux passages, puisque le premier chapitre que vous avez lu nous rappelle que l'humanité est tout d'abord créée masculin et féminin. On nous dit pas dans ce premier chapitre de la Genèse que l'humanité est créée homme et femme. Elle est créée zachar v'nekeva, qui ne se traduit pas en hébreu par homme et femme, mais par masculin et féminin. Donc il y a une reconnaissance que ce masculin et ce féminin font partie de Adam et qui sont créés de façon simultanée dans ce premier chapitre de la Bible. Et puis voilà qu'on passe à un deuxième chapitre qui semble nous raconter une histoire totalement différente, puisque dans ce deuxième chapitre, l'Adam qui semble-t-il se perçoit comme masculin puisqu'il se met en quête d'une compagne ou d'une autre face à lui, nous dit le texte exactement, eh bien, est endormi dans ce qui ressemble à la première opération chirurgicale de l'histoire biblique. Voilà qu'il est en anesthésie générale et puis le grand chirurgien divin va ôter de lui cette partie qui va devenir celle qui lui fera femme, qui cette fois est appelée femme et non pas féminin. Donc on se rend compte que c'est pas exactement la même histoire qui nous est racontée et selon qu'on raconte la première ou la deuxième, deuxième chapitre de la Genèse, l'impact est considérable. Il est considérable d'abord Si on s'intéresse à la traduction, à la célébrissime traduction du mot côte ou côté, le mot que l'on traduit parfois par côte, côte d'Adam, en hébreu se dit tsela. Or, il apparaît à de nombreux endroits dans le récit biblique, il y a d'autres occurrences bibliques de ce terme, et nulle part ailleurs il ne signifie côte. Partout ailleurs, il signifie côté. Donc la femme créée n'est pas une côte, mais un côté de cet homme. Alors, à une virgule près, finalement, en français, la différence est monumentale, puisque qu'est-ce qu'une côte ? Une côte, c'est un élément, un os, un morceau d'œuf, un peu subalterne ou de soutien de ce masculin. Alors que le côté, c'est la possibilité d'un rapport de face à face. C'est-à-dire que dans un cas, la côte, c'est la femme est présentée comme un objet dérivant de l'homme, alors que quand on traduit comme ce que l'hébreu nous invite à traduire par côté, alors il y a une possibilité de sujets qui se font face. Et puis la complexité de réconcilier le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Bible, c'est la capacité d'admettre, chose avec lesquelles les religions, je crois, sont très maladroites aujourd'hui, qu'il y a quelque chose d'un peu plus complexe que la création des sexes qui est mis en place dans la Genèse, mais qu'on reconnaît qu'il y a à l'origine un homme créé dans une complexité de genre, masculine et féminine, qui sont côte à côte et qui sont en recherche l'un de l'autre, mais qui coexistent au départ et qui ne sont pas dérivés l'un de l'autre. Et je crois que ces lectures sont essentielles et qu'il est essentiel de se replonger non seulement dans ces textes qu'on croit connaître et que souvent on interprète mal, mais aussi de se poser la question du poids politique et idéologique des traductions à travers l'histoire. Pourquoi est-ce que à travers un mot, ou en l'occurrence en français, à travers un accent, les conséquences d'une traduction sont monumentales.
Et ça a été fait, on le connaît bien dans les Bibles chrétiennes, mais ça a été fait aussi dans les traductions françaises des Bibles juives, des Bibles hébraïques.
Alors, on va trouver selon les traductions,
l'un ou l'autre,
de la même manière qu'on va trouver pour Zahar et Nekeva, dont je parlais tout à l'heure, masculin, féminin, ou mâle et femelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ambiguïté. Est-ce qu'on est en train de parler des sexe anatomique ou des genres, de quelque chose d'un peu plus complexe. Et on se rend compte que la Kabbale, par exemple, va beaucoup insister sur la nature, on va dire, hermaphrodite de l'homme premier. Il y a très nombreux textes de la Kabbale qui vont se pencher sur cette nature à la fois masculine et féminine de l'individu, de la dame, de l'Adam, qu'il soit homme ou femme. C'est-à-dire la reconnaissance de la complémentarité du masculin-féminin fait partie du discours mystique, mais moins, on va dire, du judaïsme normatif.
J'ai envie de vous poser la question, parce qu'on l'a reçue il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez été un peu inspiré par les traductions d'Annick de Souzenel, qui a beaucoup parlé de ça, elle a fait plusieurs livres sur cette question centrale du féminin de l'être, etc. Est-ce que vous les avez lus ou pas du tout ?
Non, je ne connais pas bien les travaux. J'ai beaucoup entendu parler d'Annick de Souzenel, mais je ne connais pas bien ses travaux. Mais je sais qu'elle est, elle, très, très proche de la source hébraïque. Elle s'intéresse beaucoup, justement, aux racines et à la question du féminin dans le texte. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à creuser derrière ces termes. Je ne doute pas qu'Annick de Souzenel a dû en parler. La question de ce que signifie exactement masculin et féminin en hébreu est intéressant. Le masculin en hébreu a quelque chose à voir avec la capacité de se souvenir. On dit zahra. En hébreu, c'est la capacité de mémoire, de se souvenir, d'être activement capable de se remémorer. Alors que le féminin a quelque chose à voir avec le vide, avec un orifice, avec un trou de mémoire, peut-être d'une certaine manière. Et donc le masculin-féminin en hébreu, étymologiquement, a quelque chose à voir avec un dialogue entre la capacité de se rappeler, la capacité d'oublier. Se souvenir ou ne pas se souvenir. Voilà. Et finalement, moi, il me semble que le masculin est perpétuellement dans une tentative de se souvenir d'un féminin qui est en lui depuis les origines et qu'il a beaucoup de mal à voir. Et encore une fois, je crois que le discours religieux, malheureusement normatif, ou un certain discours prédominant aujourd'hui, s'est complètement éloigné de cette genèse-là, de sa genèse.
Alors justement, ça, vous en parlez extrêmement bien, c'est-à-dire de la question de l'étymologie, parce que c'est pas juste un problème de traduction, c'est que la tradition hébraïque elle-même a interpréter aussi les mots selon ce qu'il a voulu ou ce qu'il arrangeait ou ce qu'il a cru être la vérité du texte. Mais et justement, ce que vous montrez, c'est que en réalité, ces mots sont porteurs de cette polysémie par définition, parce que la vérité ou la réalité, elle est polysémique. Et c'est ce que vous montrez de manière très très fine dans le livre, c'est que vous dites pas non, les uns ont tort, les autres ont raison. vous dites, à partir du moment où on prend en compte la polysémie, tout le monde a un peu raison. Et tout le monde a un peu tort s'il pense que son interprétation est la seule bonne.
Oui, je crois que la tradition, enfin, en tout cas ma lecture des textes, m'enseigne qu'il y a quelque chose de très dangereux à réduire un texte à un sens. Je fais parfois ce jeu de mots, c'est-à-dire que réduire à l'un des sens, c'est réduire à l'un des sens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le sens unique du texte et la lecture unique qui appauvrit considérablement, moi je dirais même le sacré, qui annihile potentiellement le sacré du texte, parce qu'un texte est sacré parce qu'il peut encore dire, il peut encore dire quelque chose, il peut encore dire autre chose. Et si on le finit, si on le définit une fois pour toutes, alors il faut se poser la question de demeure-t-il sacré ? Quel est son caractère sacré s'il a fini de dire ? Donc je crois qu'effectivement, il faut toujours creuser et remettre en question ce qu'ont été des traductions passées, se poser la question de quelle manière une génération nouvelle a entre les mains les outils qui lui permettent de lire autrement les textes, se nourrir de ce qu'ont été des lectures passées, mais être capable d'en créer de nouvelles qui sont fidèles à la tradition. Et c'est pour ça que le mot tradition n'est pas facile à véhiculer. C'est parce qu'en fait, être dans la tradition, à mon sens, en tout cas au sein du judaïsme, c'est parfois être aussi culotté que ce qu'ont été d'autres avant vous. C'est-à-dire pas nécessairement être fidèle à leur lecture du texte, mais être fidèle parfois à ce qui a été leur culot vis-à-vis du texte, leur capacité à lire autre chose. Il me semble souvent que c'est pas anodin que Abraham ait été choisi comme étant le patriarche par excellence, le modèle d'ailleurs des trois religions monothéistes, parce que la particularité d'Abraham, c'est qu'il a cassé les idoles de ses pères, c'est qu'il a quitté le monde d'où il venait. Et donc le modèle, c'est le modèle d'un homme qui, nourri de ses origines, va pouvoir être ensemencé d'autres choses, commencer un voyage et finalement être les enfants d'Abraham. C'est peut-être être dans une démarche similaire à la sienne, c'est-à-dire se nourrir de là d'où on vient, du monde de ses pères et de ses origines, mais être aussi capable que lui de marcher vers un ailleurs.
Meine Kinder schön verbracht. Bett, mein steter Bett, in Ohren stieberen mit alle Kinderler dort gewacht. Jeden Schabes leg ich los. Zu sitzen unter dem grünen Baum, allein bei dem Tau. Bett, mein steter Bett, mein Heim, alle Wuche gehabt, die schöne Halläume sah.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie de Delphine Horwiller, et nous parlons du féminin et de la pudeur dans le judaïsme à l'occasion de la sortie de votre livre En tenue d'Ève. Delphine, un mot déjà sur ce morceau de musique que vous avez choisi.
Oui, j'ai choisi un chant qui est un chant traditionnel yiddish, mais qui est interprété par Talila. Je l'ai choisi pour une raison en fait particulière, c'est qu'il y a il y a trois ans exactement, en 2010, si mon souvenir est bon, Talila, qui est une célèbre chanteuse yiddish, devait se produire dans un centre communautaire dans la banlieue de Paris. Et puis un rabbin orthodoxe a tenté d'annuler ce concert qu'il jugeait non conforme à la tradition juive, et en mettant en avant une phrase du Talmud Talmud qui affirme que la voix de la femme est une nudité et que potentiellement donc laisser une femme chanter dans un centre communautaire serait quelque chose d'impudique et qu'il valait donc mieux annuler ce concert. Donc suite à de nombreuses manifestations, plusieurs personnes sont intervenues et finalement ce concert a bel et bien eu lieu, mais je pense que c'était tout à fait emblématique d'une certaine crispation de l'interprétation au sein du monde juif contemporain, une interprétation qui est partagée malheureusement, enfin je crois encore par beaucoup de gens aujourd'hui.
Lily Envard, vous avez été témoin de ça il n'y a pas très très longtemps l'ex-grand rabbin, parce qu'il a démissionné maintenant, Bernheim, qui n'a pas voulu assister à une représentation d'un chant féminin.
Voilà, une représentation du Cantique des Cantiques, parce qu'il y avait une femme qui chantait la Bible, en fait, qui est tout simplement une voix de femme qui chantait des airs extraits du Cantique des Cantiques, en effet. Mais il y a, vous rapportez aussi des choses même beaucoup plus profanes, c'est-à-dire des soldats israéliens qui ne veulent pas entendre les femmes chanter, même l'hymne national. Enfin,
effectivement, il y a une recrudescence. En fait, ça a été une des motivations pour moi pour écrire ce livre. Il se trouve que depuis 2010, il y a eu tout à coup une recrudescence de ce genre d'épisodes. Alors certes, parfois au sein de l'ultra-orthodoxie juive en Israël, mais parfois même au sein d'une certaine orthodoxie qui est qualifiée de moderne, où tout à coup, il y a eu des épisodes dont la presse a parlé de ségrégation renforcée entre les hommes et les femmes, où tout à coup, en Israël, on demandait à des femmes d'aller s'asseoir sur certaines lignes publiques, dans le fond des bus, où on a demandé à des femmes de changer de trottoir dans certains quartiers ultra-orthodoxes. Et il m'a semblé urgent de réagir à cela, parce que c'est une chose de dire, comme certains l'ont fait, que ce monde ultra-orthodoxe ne représente rien, qu'il ne représente que lui-même, que ce n'est pas le judaïsme normatif. Tout cela est vrai, mais à la fois, je pense qu'il est important de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas au sein du judaïsme et de l'interprétation traditionnelle des textes, des pistes ou des graines qui permettent à ces interprétations de surgir, de se légitimer? Et est-ce qu'on est dans une critique et une condamnation assez virulente de ces épisodes? Et moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut que de l'intérieur des voies religieuses, de l'intérieur de l'interprétation même, on puisse se réapproprier, je parlais tout à l'heure de la notion de pudeur, mais on puisse se réapproprier ces textes et ne pas les laisser kidnapper et dériver vers une interprétation impudique et inaudible.
Mais vous avez raison, l'évolution ne peut se faire que de l'intérieur. C'est pas les critiques extérieures qui peuvent faire évoluer les choses au sein d'une tradition. On le voit aussi dans le monde musulman, c'est parce qu'il y a des réformateurs intérieurs qui réinterprètent autrement les textes. C'est pas simplement la critique occidentale sur l'islam qui fera évoluer quoi que ce soit. Donc effectivement, je trouve que ce que vous faites, comme le font d'autres, pour essayer de réinterpréter les textes en partant des sources, en les citant, en montrant qu'il y a d'autres traductions possibles, est un travail très utile. Maintenant, on sent bien qu'il est très audible pour des gens qui sont dans une mouvance libérale. Est-ce qu'il peut l'être pour des juifs plus orthodoxes qui sont un peu normés avec certains discours, comme dans toutes les autres religions, hein? Est-ce que vous pensez que qui peuvent être sensibles à ce genre d'arguments, qui peuvent relire la Bible autrement?
Moi, je crois qu'on assiste à une révolution dans ce domaine qui est moins perceptible, sans doute, de ce côté-ci de l'Atlantique que par exemple aux États-Unis, mais je crois que même à l'intérieur du monde orthodoxe, on assiste aujourd'hui à une forme de révolution où tout à coup des femmes, y compris à l'intérieur du monde orthodoxe, veulent revisiter ces textes et en tout cas être inclus dans l'exercice le plus sacré qui soit dans le judaïsme, c'est-à-dire l'exercice de l'étude, de la capacité d'étudier. On sait que dans le judaïsme, celui qui n'a pas le savoir n'a pas le pouvoir, c'est-à-dire que la sphère du savoir dans le judaïsme est c'est la sphère du pouvoir. Et ne pas avoir accès au texte, comme n'ont pas eu accès au texte les femmes pendant des millénaires, empêchait tout changement, tout questionnement constructif des textes et toute relecture autre possible. Je crois qu'on assiste aujourd'hui à une révolution et je crois que... oui, moi je suis assez optimiste, peut-être naïve, mais j'ai l'impression que ce discours est plus audible aujourd'hui et qu'en tout cas les gens ont envie de se réapproprier cette tradition, qu'elle ne soit pas kidnappée par certains.
Oui, et puis en plus, peut-être que les gens qui sont vraiment déjà dans la maturité, qui sont des orthodoxes, ne l'entendront pas. Mais je crois que c'est évidemment un devoir essentiel que pour les plus jeunes générations, de leur faire entendre cette autre voix, en réalité. Et malheureusement, je vous trouve aussi très optimiste, Frédéric, mais je ne suis pas sûre que l'islam est vraiment pris encore ce tournant. Et on attend encore.
Non, mais je ne suis pas optimiste du tout.
Voilà, une Delphine Horviller pour faire exactement cette analyse que vous faites sur les questions islamiques.
Il y en a, mais ils sont très minoritaires.
Très, très minoritaires.
Et c'est vrai comme Delphine est très minoritaire pour moi dans le jury, j'ai voulu faire le parallèle dans ce sens-là.
Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh.
Mais effectivement, il y a un gros travail, mais je crois que c'est important de le faire au nom de la tradition. C'est-à-dire que souvent, bon, parce que je suis femme, rabbin, qu'il n'y en a pas beaucoup en France, les gens s'imaginent que je vais avoir un discours ou que je vais me revendiquer comme étant pionnière ou dans une lecture subversive des textes, que j'ai pas du tout l'impression d'être ni de faire. Moi, j'ai l'impression de m'inscrire très fortement dans la tradition. Et quand je revendique le terme de subversif, ce qui m'arrive, c'est dans le sens littéral du terme, c'est que je pense qu'il y a des versions souterraines, des subversions dans le texte, qui sont là et qui sont traditionnelles et qui attendent un peu à la manière d'un palimpseste d'être grattées, d'être fouillées et de revenir à jour. C'est-à-dire que mes lectures, j'ai pas l'impression qu'elles viennent de l'extérieur ou de nulle part dans la tradition. Elles sont là, mais elles sont comme en attente d'être révélées.
D'être dévoilées, précisément.
C'est une tradition tibétaine qui considère qu'il y a dans le bouddhisme comme ça des trésors cachés, ils disent. Et il faut que la conscience de l'humanité soit mûre pour qu'ils sortent à un moment donné. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on pourra le comprendre. Je me posais aussi la question, je pense que c'est utile pour nos auditeurs, parce que vous y avez fait très rapidement illusion. C'est vrai que le judaïsme libéral est très minoritaire en France. Il faut rappeler qu'il est, je crois, majoritaire aux États-Unis.
Oui, en fait, dans la diaspora juive, aujourd'hui, il est majoritaire, puisqu'aux États-Unis, il est ultra majoritaire. Les juifs américains sont affiliés à des synagogues non orthodoxes dans leur majorité. En France, on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'il y a une structure, bon, c'est un héritage de l'histoire, une structure historique qui a été mise en place par Napoléon il y a maintenant plus de 200 ans.
Un consistoire
avec à sa tête un grand rabbin de France qui est censé représenter les juifs de France et donc parler d'une voix une au nom des juifs de France et qui aujourd'hui est une mouvance orthodoxe. Ce qui donc donne l'illusion que tous ceux qui n'appartiennent pas à ces mouvances sont dans une situation
hétérodoxe,
voire pour certains hérétique. Ce qui est totalement contraire à l'esprit même du judaïsme, puisque quiconque a ouvert un jour une page de Talmud le sait, la pensée juive par excellence est une pensée du dialogue, une pensée où l'on ne tombe pas d'accord, une pensée où l'on débat et où finalement aucune voix n'est effacée du débat et aucune voix n'est plus légitime qu'une autre. On n'efface jamais une voix du Talmud, il y a la dissonance est considérée comme un enrichissement. Je fais souvent référence à cette expression française qui, à mon sens, le traduit bien. En français, on dit tomber d'accord, comme si le fait d'être d'accord était une chute et comme si la dissonance était une forme d'élévation du débat. Et je crois que c'est très vrai dans le Talmud. Alors en France, on se rend pas bien compte du dialogue nécessaire et je dirais même essentiel historiquement au judaïsme, qui est le dialogue entre les mouvances. Il y a effectivement pour le mouvement libéral une quête de et une lutte pour être reconnu. Il est encore aujourd'hui souvent méconnu, mais bon, les choses changent lentement.
Et c'est vrai qu'alors vous jouez beaucoup avec la langue. Vous venez de parler de tomber d'accord. Je dirais presque qu'il y a quelque chose de très lacanien dans vos titres. Hein. Il y a toujours un jeu de mots, alors, vous avez en plus l'avantage que vous pouvez faire des jeux de mots aussi bien en français qu'en hébreu et nous les expliquer avec légèreté et humour. Ça aussi, c'est très profondément ancré dans la tradition juive, en réalité, de faire comprendre des choses extrêmement profondes avec le sourire, avec quelque chose qui, d'un coup, déchire la norme et nous emmène presque dans le rire. Et je dois vous dire que je vous ai lu vraiment avec régal. Je me suis régalée de vous lire parce que j'avais vraiment l'impression que vous faites ce que vous considérez être ce qu'il faut faire avec le texte, c'est-à-dire précisément, et vous venez de le dire Frédéric, vous levez les voiles successives sur ce trésor qu'est le texte, sur ce trésor qu'est le verbe. Et je dois dire, vous le faites avec un amour du verbe. Et vous venez de dire, voilà, les femmes ont été privées d'études, mais vous, on voit que vous vous êtes lancée dans l'étude avec gourmandise, et que pour vous, les mots, la parole, le texte, c'est vraiment un banquet. Vous nous y invitez, d'ailleurs.
C'est vrai que j'ai depuis longtemps une passion pour ces textes que j'ai approchés au départ, pas vraiment dans une une approche religieuse traditionnelle, mais comme une passion littéraire, peut-être, effectivement, avant de m'engager vers le rabbinat. Mais ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mes études, c'est qu'il y a dans notre tradition un rapport au texte qui est pratiquement un travail de haute couture. Vous savez, on dit souvent sur le mode de la blague que les Juifs entretiennent une histoire d'amour avec le tissu, avec l'art d'être tailleur à travers l'histoire. En fait, plus sérieusement, je crois que les Juifs ont un rapport au texte qui est un rapport de tailleur et un rapport de couturier. C'est-à-dire que le texte est comme un patron, la Bible est comme ce patron sur laquelle on va coudre et greffer et surpiquer des interprétations de génération en génération, et chaque génération est là pour retoucher et surpiquer ce dont elle hérite et couvrir. C'est intéressant parce qu'elle découvre le texte, mais en même temps elle le couvre et elle le pare de lectures nouvelles. Et c'est en ça où j'ai tenté dans le livre de dénoncer ce qui, moi, m'apparaît être une imposture, qui est celle de la lecture littérale, parce que quelqu'un qui s'accroche au verset et qui, on l'a entendu bien souvent ces derniers temps, nous dit voilà ce que la Bible nous dit et pas autre chose, et le c'est écrit comme dernier rempart de lecture, en fait, il se livre à l'exercice inverse de ce que doit être, à mon sens, l'interprétation, qui est un exercice de couture et qui est un exercice pudique où l'on habille le texte et on le pare d'interprétation. Lorsqu'on le regarde sans interprétation, dans son sens littéral, on le regarde comme s'il était tout nu. Et il y a là quelque chose de très impudique. Et ce qui me dérange tout particulièrement quand on se part du texte au nom de la pudeur, c'est-à-dire quand on met à la face des gens un verset pour exiger que l'autre se couvre, eh bien c'est qu'en fait, au nom de la pudeur, on fait du texte une lecture très impudique.
Et ça, c'est vraiment la richesse de votre analyse. Et on est vraiment au cœur du sujet. Vous montrez en réalité que Dieu ne peut se donner que dans le voile, la vérité ne peut se donner à travers un voilement, et vous donnez comme symbole de cela le texte lui-même, qui est dans l'arche, qui est lui-même derrière un rideau. Expliquez-nous cette image absolument saisissante que vous donnez du Saint des Saints, déjà à Jérusalem, et puis ensuite sa reproduction dans les synagogues. Et puis bien sûr, vous allez nous parler du jeu de mots sur le Saint des Saints.
Le voile joue un rôle particulier dans le culte juif à travers l'histoire. Il joue aujourd'hui dans les synagogues, puisque la Torah est placée derrière un rideau qu'on fait glisser et coulisser à différents moments de l'office. Mais ce rideau renvoie directement au rideau qui était au Saint des Saints, c'est-à-dire au lieu le plus saint du judaïsme, du temps du judaïsme sacerdotal, le temps où le temple se tenait encore à Jérusalem. Et il y a dans la Bible un passage qui nous dit que les portants de l'arche derrière ce rideau étaient à la fois visible et invisible. Et voilà qui surprend les sages du Talmud, qui se demandent comment des portants pouvaient-ils être à la fois visibles et invisibles pour celui qui s'approchait du Saint des Saints. Et le Talmud de répondre que quiconque se tenait à l'extérieur du Saint des Saints apercevait quelque chose de très étrange. Il apercevait ces deux portants de l'arche qui semblaient sortir du rideau, ou en tout cas qu'on apercevait en transparence à travers le rideau. Et le Talmud utilise une métaphore tout à fait surprenante, nous dit que ces deux protrusions ressemblaient à une poitrine de femme. Donc celui qui s'approchait du Saint des Saints voyait littéralement des saints, c'est un jeu de mots qui ne marche qu'en français. En tout cas, en s'approchant de ce rideau du Saint des Saints, on apercevait une poitrine de femme. Donc l'accès au divin était symbolisé par une image érotique. Donc je parle beaucoup dans le livre de ce rapport de l'homme en prière au divin comme étant un rapport qui joue sur des tonalités de l'érotisme, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre inaccessible, parce que l'érotisme c'est cela, c'est la reconnaissance que l'autre s'approche mais qu'on ne l'atteint jamais complètement, qu'il nous échappe. Et je crois que ces images de l'éros ont été utilisées et véhiculées longuement par les rabbins dans le Talmud et d'ailleurs dans d'autres textes rabbiniques pour qualifier le rapport au divin. Ce divin que l'on désire, dont on désire s'approcher, mais que l'on n'empoigne jamais, qui nous échappe et qui, à la manière d'une poitrine qui se dessine derrière un rideau, est une image non pas d'un dieu féminin, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'être dans un anthropomorphisme, qui est contraire à des idées chères du judaïsme, mais reconnaître que les images de l'érotisme sont peut-être les seules qui peuvent nous dire, sans nous dire, peuvent nous dire l'indicible de cette approche du divin.
Sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin de Delphine Horviller pour parler du féminin et de la pudeur dans le judaïsme à l'occasion de la sortie de son livre En tenue d'Ève chez Grasset. Et certains d'entre vous ont peut-être reconnu la belle voix de Dalida qui chante un psaume hébreu bien connu. Lélie Anvar.
Oui, alors vous tissez effectivement une trame qu'il est difficile de résumer, mais enfin dans laquelle on voit le lien qu'il y a entre le dire et le féminin. Donc le texte, le féminin, le verbe, s'exprimer, ne pas s'exprimer. Aussi l'idée que, évidemment, on ne peut pas supporter d'une certaine façon, la société des hommes ne peut pas supporter de voir les femmes comme elle ne peut pas supporter d'entendre leur voix. Eh bien, en bien des endroits de votre livre, je me suis crue dans le pays des ayatollahs, je dois dire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé à une poétesse persane, contemporaine, enfin, qui est décédée en 1967, et qui est la première femme qui a osé publier ses poèmes de son vivant. Elle est morte en 1967, c'est vous dire que c'est tardif, parce que c'était considéré comme une impudeur inouïe de dire des poèmes pour une femme, d'écrire pour une femme, tout simplement. Alors, elle peut écrire pour elle, mais il ne faut surtout pas qu'elle publie. Et là, elle publie, et donc, elle a été traitée, comme certaines femmes que vous citez dans votre livre, de femme impudique, quasiment de prostituée, puisque non seulement elle publie des poèmes, mais que dans ses poèmes, elle parle de son corps, elle parle de ses désirs. Donc, je vous ai apporté une traduction que j'ai faite spécialement, puisque j'ai pensé à ce poème qui est très, très célèbre, donc de la poétesse persane Folure Farrukhzad. Et ça s'intitule « Révolte ». Ne scelle pas mes lèvres au cadenas du silence, car j'ai dans le cœur une histoire irracontée. Délivre mes pieds de ces fers qui les retiennent, car cette passion m'a bouleversée. Viens, homme. Viens, égoïste, viens ouvrir les portes de la cage. Toute une vie, tu m'as voulu en prison. Dans le souffle de cet instant, enfin, délivre-moi. Je suis l'oiseau, cet oiseau, qui depuis longtemps songe à prendre son envol. Mon chant s'est fait plainte dans ma poitrine serrée, et dans les désirs, ma vie a reflué. Ne scelle pas mes lèvres au cadenas du silence, car il me faut dire mes secrets, et que je fasse entendre au monde entier le crépitement enflammé de mes chants. Viens. Ouvre la porte, que je m'envole vers le ciel limpide du poème. Si tu me laisses m'envoler, je me ferai rose à la roseraie du poème. Mes lèvres sucrées par tes baisers, mon corps parfumé à ton corps, mon regard avec ses étincelles cachées, mon cœur plaintif par toi rougi. Mais ô homme, homme égoïste, ne dis pas que c'est une honte et que mon poème est honteux. Pour ceux dont le cœur est enfiévré, le sais-tu, l'espace de cette cage est étroite, si étroite. Ne dis pas que mon poème est un péché tout entier. De cette honte, de ce péché, laisse-moi ma part. Je te laisse le paradis, ses houris et ses sources. Toi, laisse-moi un abri au cœur de mon enfer. Livre, intimité, poème, silence. Voilà pour moi les sources de l'ivresse. Qu'importe de n'avoir pas voix au paradis. Puisqu'en mon cœur est un paradis éternel.
Delphine Horviller, un petit mot sur ce texte.
Effectivement, il y a des résonances fascinantes avec un certain univers littéraire qu'on va retrouver dans le judaïsme. Moi, je pense à des textes moins contemporains, mais cette idée qu'on retrouve d'une femme enfermée dans son intérieur, dans son intériorité, qui a souvent rimé avec une femme domestiquée ou que l'on veut domestiquer selon la tradition. Et chaque fois qu'elle tente de sortir à l'extérieur, alors il y a tout un tas de qualificatifs qu'on va trouver dans des textes anciens, dans des textes du Talmud ou de littérature rabbinique ancienne, où une femme qui sort à l'extérieur de son domaine, eh bien, elle est qualifiée de, bien souvent, effectivement, de prostituée, c'est-à-dire de quelqu'un qui questionne le système au point d'être dans cette figure. Dans cette figure réprouvée, donc comme si la femme devait être contrôlée, devait être contrôlée à la fois dans son espace, dans ses droits, mais aussi dans son corps, et comme si tout ce qui dépasse la dépassait. Il fallait rien laisser dépasser du corps d'une femme, parce que tout ce qu'elle montre est déjà une exhibition d'un intérieur. Ce que j'ai compris en travaillant ce livre, c'est qu'en fait, la notion de nudité hébraïque, elle a quelque chose à voir avec la zone liminale. En fait, ce que vient très souvent représenter la femme et le féminin dans les textes, c'est l'accès à la zone liminale et au cachet du corps, et plus exactement même à tout ce que le corps sécrète. C'est intéressant qu'en français, je reviens encore une fois, pardon, sur ces jeux de mots, mais que le mot secret et sécrétion a quelque chose à voir en français, étymologiquement. Je crois qu'on trouve dans la pensée hébraïque des notions similaires. Le corps de la femme est un corps qui fait peur parce qu'il a cette image d'être un corps du secret et un corps qui secrète, un corps dont potentiellement peut faire passage entre l'intérieur et l'extérieur. Après tout, c'est le mystère de la vie, ce passage de l'intérieur vers l'extérieur. Et la femme ou le féminin dans les textes vient à incarner tout ce qui on aimerait voir rester à l'intérieur, dans des profondeurs, et tout ce qui, quand il sort à la surface ou est exhibé, dépasse et fait peur, parce que c'est un intérieur qui devient trop visible. Voilà. Donc je pense que cette tension entre intérieur et sortie à l'extérieur, qu'on entend très bien dans ce poème, est au cœur de certains textes de la tradition juive, mais beaucoup plus largement, on retrouve, je pense, dans les religions en général, on greffe sur la femme et le féminin ces images de l'intériorité.
J'aimerais vous poser une question sur la pudeur de Dieu. On a l'impression finalement que Dieu se révèle sans se dévoiler. Développer un petit peu cette idée qui est au cœur de ce que vous dites, hein, de tout. Comment Dieu finalement se manifeste tout en restant totalement secret, inaccessible, parce qu'on se dit après tout, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus présent? Pourquoi est-ce qu'on ne le sent pas plus? Il y a toujours, est-ce que vous interprétez ça comme sa pudeur?
Alors certains l'ont fait, et c'est au cœur de la tradition mystique juive que de le dire, qu'il y a un retrait du divin qui est comme voilé. Mais je crois qu'il y a surtout au cœur du judaïsme cette idée qu'il faut se méfier de tout ce qui pourrait limiter le divin. Et parfois, cette idée d'un divin qu'on pourrait toucher ou qu'on pourrait apercevoir, ou même que l'on pourrait dire, parce que s'il y a une particularité du judaïsme, c'est que le nom de Dieu n'est pas prononçable, parce que son simple nom, le fait de le définir, fait prendre le risque de le finir. Définir quelque chose ou quelqu'un, c'est dire ou suggérer qu'il ou elle n'est pas autre chose. Et je crois qu'il y a une angoisse très forte par rapport à l'illusion de la finitude du divin, et se pose beaucoup la question de comment laisser le divin dans l'inaccessible, dans l'infini. Et en cela, on ne doit pas toucher, on ne doit pas dire, on ne doit pas voir complètement, mais on est toujours dans un aperçu partiel. C'est-à-dire que on peut regarder dans la direction du divin. C'est ce que fait Moïse dans la Bible. C'est ce que font les Juifs en réalité tous les jours. Vous savez, il y a une prière centrale dans le judaïsme que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle le Shema, Shema Israël, écoute Israël, qui est peut-être la prière centrale du judaïsme. Et en la prononçant, les Juifs font un geste très particulier, c'est qu'ils se couvrent les yeux. En réalité, ils placent leurs mains devant leur visage. Et mon interprétation, enfin, il y a beaucoup d'autres gens qui l'ont, elle n'est pas de moi, mais en tout cas, elle me touche particulièrement, c'est cette idée qu'en invoquant le nom de Dieu, on doit avoir un regard entravé, avoir conscience qu'on n'a qu'une vision imparfaite du monde, imparfaite de la réalité, une vision parcellaire, et particulièrement quand il s'agit du divin, il n'est pas dans une pleine lumière. De la même manière que la vérité ne peut pas être vue toute nue, on ne peut pas voir le divin tout nu, on ne peut pas lire les livres sacrés dans leur nudité, mais on est toujours dans une approche voilée du sacré.
Est-ce que ce n'est pas justement parce que Dieu est perpétuellement caché qu'il est infiniment désirable ?
Je pense que c'est peut-être une garantie d'un désir renouvelé de façon permanente. On ne l'a jamais atteint une fois pour toutes, mais à la manière d'une caresse, on continue de l'approcher et puis il nous échappe. Et cette idée, elle est au cœur, je crois, du Cantique des Cantiques, qui dans son rythme ressemble un peu au poème que vous avez lu à l'instant, ce rythme d'un homme et d'une femme qui se cherchent et qui ne se trouvent pas, et quand ils se trouvent, ils se perdent à nouveau. Et ce livre, on s'étonne qu'il ait intégré le canon biblique, parce qu'après tout, il ne parle pas de Dieu.
C'est Rabbi Akiva qui a insisté, qui a été révolutionnaire à son époque.
Oui, Rabbi Akiva dit que si tous les textes de la Bible sont saints, le Cantique des Cantiques est le saint des saints. Il a un caractère sacré particulier. Il a un caractère sacré. Il nous parle à travers les images de l'Éros du rapport entre le peuple d'Israël et son Dieu. Ce qui est intéressant d'ailleurs, ce que je développe un peu dans le livre, c'est cette idée qu'on oublie que c'est la bergère, c'est la fiancée dans le texte qui incarne le peuple. Donc ce chant qui est chanté bien souvent par les hommes dans les synagogues et qui est interprété par les hommes à travers l'histoire, les met en scène dans une incarnation féminine. Ils ne sont pas l'homme de l'histoire, ils sont le féminin de cette histoire dans un rapport un divin sous les traits du masculin. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose que les religions doivent explorer ou réexplorer aujourd'hui, parce que la Kabbale l'a beaucoup fait, mais explorer la façon dont tous, y compris l'homme, dans le culte et la prière, investissent le féminin et le monde du féminin. Il y a un certain nombre de moments dans le culte, dans le judaïsme, où l'homme parle de lui-même au féminin. On a tendance à l'oublier, mais voilà, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles le féminin est investi. Donc une capacité à visiter ce féminin. La question que l'on doit se poser derrière, c'est pourquoi l'homme parvient à visiter le féminin et l'univers féminin, mais pourquoi a-t-il besoin pour cela de tenir les femmes à distance ?
Oui, d'ailleurs, vous insistez sur l'idée que il y a peut-être justement dans le féminin quelque chose qui participe de l'intimité divine. À un moment, vous posez vraiment la question, le féminin serait-il plus intime avec le divin que le masculin ? Et c'est la raison pour laquelle, justement, on ne peut l'approcher qu'à travers des voiles. Mais il est certain que si on fait une interprétation mystique de cela, c'est pas du tout la même chose, anthropologiquement, que d'en faire une interprétation littérale.
Oui, effectivement, je pose la question de pourquoi est-ce que le divin, l'image que je rapportais tout à l'heure du Talmud, le divin prend les traits d'une poitrine de femme derrière ce voile. Alors la question qui se pose derrière cela, c'est bien entendu le Talmud est édité par des hommes, pourquoi choisissent-ils une image d'une poitrine de femme ? Est-ce justement parce qu'ils sont des hommes et que l'image érotique ou le langage érotique qu'ils véhiculent pour parler du divin s'inscrit dans leur propre, on va dire, hétérosexualité, ou bien est-ce que plus largement, le féminin vient à incarner cette figure de l'inaccessible, se cacher, se voiler ? Moi, je crois que le féminin dans les textes vient incarner tout ça. Le problème est lorsque l'on réduit les femmes à cela. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très différent à définir que le féminin, c'est le caché, c'est le secret, c'est bien souvent l'image du sacré inaccessible. Mais pourquoi réduire les femmes à cela ? La question est loin d'être évidente et pourtant ce raccourci de pensée a été très partagé tout au long de l'histoire des religions.
Et ça nous ramène à la Genèse, c'est-à-dire si Adam, c'est l'humain, évidemment, dans tout humain, il y a du féminin et du masculin. Et ça résoudrait à ce moment-là le problème. Et ce voile que l'on veut faire porter aux femmes, en réalité, il faut le faire porter à soi-même. Et c'est cela dont vous parlez quand vous parlez de pudeur réinvestie. C'est cette pudeur de soi à soi, de soi à Dieu. Et ça n'a plus rien à voir à ce moment-là avec le voile, une oppression faite aux femmes.
Ça n'a plus rien à voir avec une obsession aussi religieuse.
Qui n'est peut-être tout simplement liée à la peur que les hommes ont de leur propre désir par rapport à la femme.
Oui, il y a quelque chose de fascinant dans cette peur de la perte de contrôle qui vient souvent justifier. On dit aux femmes, tenez-vous à distance parce que l'homme risquerait de perdre contrôle sur ses pulsions.
Il pourrait ne plus maîtriser.
Alors, ce que je dis dans le livre, et c'est un paradoxe que pour l'instant, personne n'arrive à m'apporter une réponse qui me semble valable. Il y a dans les textes très clairement cette idée que ce qui définit le masculin par rapport au féminin, c'est la capacité du contrôle. Le masculin a quelque chose chose à voir avec la capacité à être en contrôle de ses pulsions, alors que le féminin, et c'est pas propre au judaïsme, mais dans de nombreuses traditions, le féminin a quelque chose à voir avec l'incontrôle, le fait qu'on n'est pas en maîtrise, on n'est pas en situation d'autonomie et de contrôle. Le paradoxe de l'obsession de la pudeur, c'est que l'homme dit à la femme « cache-toi parce que je risquerais de perdre contrôle », or le propre du masculin est d'avoir ce contrôle et de ne pas le perdre. D'où mon interprétation qui est de dire que l'homme dit à la femme « éloigne-toi parce que je risque, en cédant à la tentation, de devenir toi ». Parce que l'homme qui cède à la tentation est du coup féminisé. Et je pense qu'il faudrait, investiguer, voilà, peut-être continuer à poser cette question. Est-ce que l'homme ne craint pas de cesser d'être homme en cédant à cette tentation?
Eh bien, c'est sur cette question que nous allons terminer cette émission. Je rappelle votre livre « En tenue d'Ève » chez Grasset. Merci beaucoup Delphine d'être venue nous parler aujourd'hui de ce sujet si important.
Merci à vous.
Bref, agenda culturel pour clore cette émission, Lélie.
Oui, alors comment être brève pour l'ouvrage monumental dont je vais vous parler. Il s'agit du Dictionnaire des femmes créatrices. Et quand je dis monumental, c'est vraiment monumental. Il y a 1600 pages. Et ce dictionnaire a pour ambition de mettre le nom de toutes les femmes dans toutes les cultures et dans toutes les langues qui ont fait une œuvre créatrice, que ce soit dans les domaines de la peinture, de l'écriture, de l'édition, de toutes sortes de choses. Et c'est vraiment une œuvre incroyable qui a été pensée par Antoinette Fouque de l'édition des femmes. Donc voilà, je vous le recommande. En fait, j'y ai contribué pour quelques articles, mais vraiment, c'est un ouvrage monumental et le projet me semble déjà tellement extraordinaire que je ne voulais pas ne pas en parler à l'issue de cette émission dans laquelle on a tant parlé du féminin. Et puis, deux autres choses liées aussi au féminin. Ce sont deux poétesses que je voudrais recommander à nos auditeurs. Il s'agit d'Anne Bihan, qui édite aux éditions Bruno Doucet « Ton ventre et l'océan ». Et je ne m'aventurerai pas à résumer un recueil de poèmes. Je vous dirai juste trois vers. « Temps venu de se déprendre, habiter l'évidence de n'être ni l'un ni l'autre, oser se tenir entre, t'assembler par-delà ». Et c'est vraiment un texte sur le féminin, sur le ventre de la mère dans tous ses sens, qui est très beau, très convaincant. Et j'aime bien aussi de temps en temps parler de poètes contemporains et vivants. Une autre poétesse, Brigitte Maillard, publiée chez Atlantica, son recueil s'intitule « La simple évidence de la beauté ». Et là aussi, c'est un tout petit recueil, mais dans lequel il y a quelques très jolies fulgurances. Par exemple, « Ô toi la vie, regarde-moi, mon doigt se pointe, l'amour est là, mon pied avance, l'amour est là. Mon regard s'ouvre, l'amour est là. » Et donc, voilà, ce sont des textes sur l'amour, sur la beauté, sur la féminité que je vous recommande.
Merci Lélie.
Cette émission s'écoute en ligne pendant 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. La semaine prochaine, des ténèbres à la joie.